Europe 1.
Vous écoutez Europe 1, il est 19h.
Europe 1 soir.
19h, 20h. Céline Géraud.
Bonsoir à tous et bienvenue à bord. Europe 1 soir, c'est votre rendez-vous d'information de ce début de soirée sur Europe 1. Alors dans ce journal, que faut-il retenir du discours sur l'Europe du président de la République à la Sorbonne aujourd'hui pour présenter ses ambitions européennes et relancer la candidature de Valérie Ayer? Prisca Thévenot, porte-parole du gouvernement, sera avec nous en direct dans le studio à 19h20. Venez réagir 01 80 20 39 21. L'actualité, c'est aussi les derniers éléments de l'enquête dans l'affaire Kenji Girac. Le procureur de Mont-de-Marsan s'est exprimé il y a quelques minutes. La thèse de l'accident ne tient plus. Tous les détails dans quelques instants. Les conducteurs de métro de la RATP mobilisés pendant les JO pourront toucher des primes allant jusqu'à 2500 euros. Le célèbre cabaret du Moulin Rouge défiguré après l'effondrement de ses ailes la nuit dernière. Les riverains et les touristes sont stupéfaits, vous les entendrez. Et puis la procédure pour changer de nom en vigueur depuis 2022 a du succès. Tous les détails à la fin de ce journal. Bonsoir Marlène Duret.
Bonsoir Céline.
La tendance météo pour demain?
Alors fini le froid. Les températures se rapprochent enfin des moyennes de saison. Pour autant, le soleil restera timide et les passages pluvieux vont se succéder jusqu'en milieu de semaine prochaine, même dans le sud-est. Et on fait un point sur la journée de demain en fin de journal.
Europe 1.
Et on ouvre cette Europe 1 soir avec l'affaire Kenji Girac. 4 jours après la grave blessure par arme à feu du chanteur dans sa caravane à Biscarrosse dans les Landes, cet après-midi, le procureur de Mont-de-Marsan a livré des éléments éclairants. Stéphane Place, vous avez suivi cette conférence pour Europe 1. Alors jusqu'à présent, l'artiste avait répété qu'il s'agissait d'un tir accidentel. Aujourd'hui, cette thèse ne tient plus.
Oui, dimanche dernier, Kenji Girac a beaucoup bu tout au long de la journée. Les analyses estimeront qu'il avait un peu plus de 2 grammes d'alcool dans le sang au moment du tir et révéleront aussi des traces de cocaïne. Quand il revient dans sa caravane en pleine nuit, le chanteur ivre se dispute avec sa femme parce qu'il a réveillé leur petite fille. Pas de violence, mais des mots. Après que sa compagne lui a dit qu'elle voulait partir, elle est dans sa chambre avec leur enfant. L'artiste, lui, dans le salon, prend l'arme qu'il a achetée quelques jours plus tôt. La suite, c'est Olivier Janson, le procureur de Mont-de-Marsan, qui la raconte.
Il ne dit plus que le coup est parti involontairement. Il a indiqué que, en fait, cette impulsion a consisté pour lui à vouloir faire peur à sa femme, l'impressionner. Il indique qu'il a eu lui-même très peur quand il a entendu parler de départ. En quelque sorte, il a simulé un suicide, dit-il. Il précise qu'il a alors omis de vérifier si le chargeur dans cette arme de poing comprenait des munitions ou pas. Il le croyait vide, dit-il, et c'est volontairement qu'il a inséré le chargeur, et c'est volontairement qu'il s'est tiré dessus.
Kenji Girac indique assumer ce qu'il a fait tout en le regrettant fortement et maintient qu'il s'agit d'une simulation de suicide. A précisé le magistrat, cette affaire, sur le plan judiciaire, devrait se terminer par un classement, a ajouté le procureur.
Stéphane Place, à Mont-de-Marsan, pour Europe 1. L'actualité de ce jeudi soir, c'est aussi cet adolescent de 16 ans, placé en garde à vue. Le jeune homme, déjà fiché S, a reconnu qu'il projetait de commettre une action suicidaire pendant les Jeux Olympiques. Le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'enquête. Noémie Loisel, vous êtes dans la commune de Marigné, en Haute-Savoie, non loin du domicile des parents de l'adolescent. Un adolescent, a priori, sans histoire, et dans son quartier, c'est la stupéfaction.
Oui, j'ai pu parler avec quelques voisins du quartier. Ils décrivent cet adolescent de 16 ans comme un garçon très gentil, poli, assez timide et sans histoire. Comme beaucoup ici, l'un de ses voisins qui le fréquentait lorsqu'il était plus jeune est surpris d'apprendre la nouvelle.
Super gentil, très poli, pas de signe de violence, rien du tout. Vraiment un super gamin, très gentil, quoi. Sa famille est très gentille, dans le partage. Vraiment une famille normale comme la mienne, comme toutes celles présentes ici. Ici, c'est tellement tranquille, on n'a jamais eu de mauvaises surprises ou de soucis par rapport au voisinage et d'autant plus par rapport à cette famille-là et ce jeune, quoi.
Aucun signe de radicalisation selon les voisins. Ils m'ont également confié que ses parents étaient responsables, stricts avec leurs enfants. Dans ce quartier en hauteur de Marigné où une dizaine de maisons sont regroupées, le jeune garçon avait pour habitude de jouer au foot avec ses amis. L'adolescent est actuellement en garde à vue. Il était suivi pour radicalisation islamiste. Lors des perquisitions, les enquêteurs ont d'ailleurs retrouvé un serment d'allégeance à Daesh.
Noémie Loisel à Marigny en Haute-Savoie pour Europe 1. 19h04 sur Europe 1, Emmanuel Macron était de retour à la Sorbonne ce matin, 7 ans après son grand discours sur l'Europe. Le chef de l'État a réédité l'exercice pendant plus de 2 heures. Il a dressé un bilan de ce qui a été fait depuis 2017, mais aussi et surtout présenté ses perspectives pour l'avenir. Alexandre Chauveau, vous avez suivi ce discours pour Europe 1, un discours qui intervient en pleine campagne européenne et qui vise aussi à dynamiser la campagne de Valérie Ayé.
2 heures de discours et un maître mot pour Emmanuel Macron, la souveraineté européenne, défense, industrie, énergie, alimentation. Le chef de l'État appelle l'Europe à sortir de sa naïveté face à l'agressivité économique et militaire des puissances adverses. Les règles du jeu ont changé, affirme le chef de l'État, qui met en garde ses partenaires.
L'attaque contre les démocraties libérales, contre nos valeurs, contre, je le dis dans ce lieu de savoir, ce qui est le substrat même de la civilisation européenne, une certaine relation avec la liberté, la justice, le savoir, se joue maintenant ou pas. Oui, nous sommes au moment de bascule et notre Europe est mortelle, simplement cela dépend de nous.
Réarmement du monde, risque de décrochage économique et remise en cause du modèle culturel occidental. Face à la multiplication des menaces, Emmanuel Macron appelle à la mobilisation des pays européens. Un message envoyé également aux Français, appelés aux urnes le 9 juin prochain, et ce, alors que la liste de la majorité présidentielle est en grande difficulté dans les sondages.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1, un discours d'Emmanuel Macron qui intervient entre 2 prises de parole des oppositions. Hier, Raphaël Glucksmann présentait son programme et cet après-midi, quelques heures après le chef de l'État, la droite a répliqué, Maïalène Trémollet.
Oui, Jordan Bardella et François-Xavier Bellamy critiquent tous deux un discours assumé comme un appel au vote, selon le président du Rassemblement National. À l'occasion de la présentation de son programme, Jordan Bardella relève un engagement personnel et direct du chef de l'État dans la campagne des européennes et rappelle sa responsabilité dans le bilan européen.
Après 6 ans et demi de recul, le bilan de la Sorbonne 1 est pour le moins décevant. Ce qui devrait valoir sinon des excuses, du moins une proposition de réorientation, ne donne lieu qu'à une séance d'autosatisfaction qui tient davantage de la méthode Coué que de la raison. Ces élections européennes sont donc la bataille électorale entre 2 conceptions de l'Europe et à l'évidence l'opposition entre notre projet et son bilan.
Même son de cloche chez François-Xavier Bellamy, la tête de liste LR, qui rappelle qu'il y a les discours à la Sorbonne d'une part, les actes à Strasbourg de l'autre.
Personne n'est dupe, c'est bien un discours de campagne, c'est un acte de campagne. Ce discours ne changera rien. Il n'y a rien de nouveau, rien que les Français n'aient déjà entendu très souvent. Et je crois que les Français, en réalité, ont déjà tourné la page. Si vous relisez le premier discours de la Sorbonne, sa seule réussite concrète, c'est d'avoir créé la dette européenne.
Un discours vivement critiqué donc, tant sur le fond que sur la forme, à la fois sur le bilan du président depuis 7 ans en Europe et sur une prise de parole considérée comme un discours de campagne en faveur de Valérie Ayé, la tête de liste Renaissance.
Maïalène Trémollet du service politique d'Europe 1 et dès 19h20, Prisca Thévenot, porte-parole du gouvernement, sera avec nous en direct dans ce studio pour décrypter ce discours mais aussi pour réagir sur les autres sujets qui font l'actualité. Et si vous, auditeurs d'Europe 1, vous souhaitez intervenir, réagir, 01 80 20 39 21. 19h08, vous restez bien avec nous sur Europe 1. Dans quelques instants, Europe 1 soir, la suite. On en sait plus, évidemment, sur le dispositif de sécurité pour les Jeux. Des Jeux qui pourraient rapporter gros aux conducteurs de métro de la RATP mobilisés. Le montant des primes pourra atteindre 2500 euros. On vous dit tout ça juste après la pub. A tout de suite.
19h, 20h. Céline Géraud.
Allez, 19h10, on est ensemble comme chaque soir jusqu'à 20h et on est à 91 jours des Jeux Olympiques. Alors après les policiers, les conducteurs de métro et RER qui seront mobilisés pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques vont toucher eux aussi des primes. La direction et les syndicats majoritaires FO et CGT se sont mis d'accord sur les montants de cette prime. Et le moins qu'on puisse dire, Barthélémy Philippe, c'est que les montants sont conséquents.
Oui, la direction a d'abord proposé 1200 euros, mais finalement, ce sera 1600 euros. Après une demi-journée de négociations, les syndicats ont finalement obtenu 400 euros de bonus pour les conducteurs mobilisés pendant toute la durée des Jeux. Ces 1600 euros s'ajoutent à la prime d'événement de 44 euros par jour travaillé. Au total, les agents les plus fortement mobilisés pourront donc toucher jusqu'à 2500 euros. Une négociation assez satisfaisante pour Jean-Christophe Delpras, secrétaire général de FO-RATP, il souligne l'importance du rapport de force entretenu par les syndicats.
On a dû passer par les menaces de grève pour avoir ce qu'on a aujourd'hui. En France, le fruit des négociations, c'est le rapport de force. Ça fait partie des armes qu'on a, nous, mais c'est aussi un constat d'échec. Ça veut dire que la direction ne nous a pas entendus.
Précision importante, la prime sera versée sous condition de présence. Son montant sera réduit de moitié si le conducteur est absent 5 jours sur la période. Au-delà, la prime sera supprimée. Tout métier confondu, la direction de la RATP a indiqué que les agents mobilisés pendant les Jeux percevront en moyenne 1000 euros de prime.
Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1, 19h11 dans cette Europe 1 soir. Je vous parle maintenant de cette loi entrée en vigueur en 2022 qui simplifie le changement de nom. Depuis, le nombre de Français ayant effectué cette démarche a triplé. L'INSEE vient d'ailleurs de révéler les chiffres. 144 000 personnes ont modifié leur nom entre août 2022 et décembre 2023. Louise Salé, c'est 3 fois plus qu'avant la loi sur la même période.
Oui, parce que grâce à cette loi, plus besoin de passer devant un juge si l'on veut ajouter ou bien substituer à son nom de famille celui de l'autre parent. Un simple formulaire déposé en mairie suffit sans justification. Et cette démarche est réalisée en majorité par des femmes et par des jeunes adultes de moins de 30 ans. Lionel Espina, c'est co-auteur de cette étude responsable des répertoires de personnes à l'INSEE.
Il y a eu un pic, une montée en charge très rapide. Les premiers changements de nom sont arrivés le 1er août 2022. Et jusqu'en octobre, on a eu une très forte hausse de ces changements de personnes qui étaient en attente, en fait, qui attendaient que cette loi passe pour pouvoir faire cette démarche.
Les demandes de changement de nom ont effectivement connu un pic à l'automne 2022. Il y en a eu 13 000 juste après la loi. Et dans son étude, l'INSEE note que dans les 2/3 des modifications, il s'agit du remplacement du nom d'un parent par l'autre, davantage qu'un simple ajout de nom au nom initial.
Et précision de Louise Salé du service Société d'Europe 1. C'est l'un des symboles de la capitale et de Pigalle, le Moulin Rouge. La nuit dernière, le célèbre cabaret a perdu ses ailes. Les pales et une partie de l'enseigne lumineuse se sont effondrées pour une raison encore inconnue et sans faire de blessés. Le reportage de Guillaume Dominguez.
Au pied du Moulin Rouge, la bouche grande ouverte, les yeux écarquillés, les touristes accusent le coup. Difficile de croire que le plus célèbre cabaret parisien est amputé d'une partie de sa façade. Stéphane, en vacances à Paris, est venu dès qu'il a appris la nouvelle.
J'y croyais pas, donc du coup je suis venu sur place pour voir. Ça me fait un choc, j'ai toujours connu avec les ailes tout, et c'est ça qui fait la féerie du Moulin, et le fait que ce n'est plus là, ça fait quelque chose.
Une surprise tant pour les touristes que pour les habitants du quartier. Jean-Pierre habite à 200 mètres du Moulin Rouge.
C'est bizarre, surtout c'est le Moulin Rouge, c'est le plus connu à Paris, ça. Il y a beaucoup de touristes, tout ça. Ils ont eu de la veine, il n'y a pas eu de blessés. Ça aurait été le samedi, dimanche, toutes ces blindés-là. Ça aurait pu y avoir des blessés, c'est grave.
La chute des ailes est pour le moment inexplicable, indique dans un communiqué la direction du Moulin Rouge, mais précise qu'il ne s'agit pas d'un acte malveillant. Une version qui correspond au témoignage de plusieurs habitants du quartier. Rita est chef de rang au Rouge Bis, la brasserie qui fait face au Moulin Rouge.
J'ai un ami qui était là cette nuit et qui a vu l'aile tomber. Apparemment, elle serait tombée d'elle-même. Nous, ça fait des années qu'on est devant. Ça fait tout drôle.
Même sans ses ailes, au Moulin Rouge, le spectacle continue. Toutes les représentations sont maintenues. Les danseuses seront de nouveau sur scène dès ce soir.
Guillaume Dominguez, tout près du Moulin Rouge pour Europe 1. 19h14, on fait un point sur les marchés, comme chaque jour. Avec vous, Didier Hameau de boursier.com. Un CAC 40 en baisse ce soir.
On baisse assez net d'ailleurs. Moins 0,93% finalement. 8017 points, même si le seuil des 8000 points a été préservé, alors que les résultats d'entreprise ont continué d'animer le marché, avec dans le palmarès quelques valeurs qui s'en sortent bien. Veralia, Fnac, Sanofi en hausse de 4 à 5%. Mais c'est beaucoup plus difficile pour Atos, qui perd encore 6%, toujours en grande difficulté. Baisse aussi appuyée sur Dassault Systèmes après ses résultats, moins 5%. Pernod Ricard perd aussi pratiquement 3%. Ça baisse un petit peu partout. Il faut dire qu'à Wall Street, il y a Meta, donc Facebook, qui perd 12% actuellement après des comptes mal reçus par le marché américain. Ça entraîne un petit peu tout le monde. Francfort, moins 0,9%. Bruxelles, moins 0,7%. Le CAC 40 perd 0,93%. 8000 17 points.
Merci Didier Hamot de boursier.com. 19h15, place à la météo avec vous Marlène Duré. Le temps se dégrade sur la majeure partie du pays demain.
Et oui, plus de nuages que de soleil, avec des passages pluvieux plus ou moins nombreux, plus ou moins marqués, voire quelques orages. En tout cas, le risque sera plus prononcé entre le Var, les Bouches-du-Rhône et les Cévennes demain matin. Prévoyez de bonnes pluies et elles peuvent tourner à l'orage. Et cette partie instable orageuse va rejoindre au fil des heures les Alpes du Sud. Et puis on a une autre zone un peu plus active, plutôt à l'ouest du pays, en particulier l'après-midi. De nombreuses averses potentiellement orageuses devraient circuler entre le Périgord, le Poitou, les Pays de la Loire, la Bretagne, le Cotentin, avant de rejoindre en fin de journée la région parisienne et la Haute-Normandie. Notez quand même une amélioration au bord de l'océan avec le retour progressif du soleil. C'est-à-dire que par rapport au matin, ça va bien se dégager. Et puis au pied des Pyrénées, ce sera l'inverse. Les belles éclaircies du matin céderont la place aux averses, aux nuages. Et je termine par la Corse, plutôt agréable, avec pas mal de soleil.
Et comme prévu, les températures continuent de monter.
Oui, les minimales seront raisonnables pour une fin avril. Pas de gel demain matin, en pleine, tout du moins. Le risque de gelée ne concernera plus que les massifs. Et puis les maximales seront comprises entre 12 degrés à Cherbourg et 19 à Ajaccio. Avec par exemple 13 à Quimper, il fera 14 degrés à Sochaux, à Amiens, à Colmar. 14 à Nice également, 15 à Limoges, à Tours, 16 à Paris, à Lyon et à Marseille. 17 du côté du Midi-Toulousain et 18 à Perpignan. Et puis ce week-end, sachez qu'on va retrouver des températures de saison. Seulement, voilà, le temps sera perturbé, voire agité, avec notamment un épisode cévenol qui va se mettre en place. Voilà, il faudra surveiller les cumuls d'eau.
Merci beaucoup Marlène Duré. À demain pour de nouvelles aventures. Nous, on reste ensemble, bien sûr, hein, jusqu'à 20h comme chaque soir. Et dans quelques instants, Prisca Thévenot, porte-parole du gouvernement, sera avec nous en direct dans le studio. Alors évidemment, on va revenir sur le discours d'Emmanuel Macron sur l'Europe, à la Sorbonne, les élections européennes, mais aussi la polémique autour de la GPA. Ne bougez pas, restez bien avec nous et 01 80 20 39 21 si vous souhaitez réagir, je vous attends.